Hello!
Salut
Et bonsoir.
Bien le bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Tout pour le goûter. Il est 18h. Ok, on est un petit peu en retard. Il est 18h03. Bah, j'ai dit qu'il était 18h. C'est complètement pas conventionnel de dire ça. On dit pas ça normalement, non? Il est 13h12, passé
Ah.
de 4h48 minutes. Cela fait 28 324 jours que l'État israélien a commencé sa sale guerre de colonisation contre le peuple palestinien. Ça fait 23 160 jours que le peuple algérien a obtenu son indépendance, enfin, a gagné la guerre, je ne sais pas comment dire ça bien.
Arraché.
Ah, ouais, après la trop longue colonisation par l'État français. Ça fait environ 16 250 jours qu'une recrudescence de maladies qui a intrigué les médecins aux États-Unis ont identifié par la suite le VIH. Cette phrase ne voulait rien dire, j'en suis désolé, mais je pense que vous avez compris. Cela fait 7 340 jours qu'ont éclaté les révoltes dans les quartiers populaires qui avaient commencé à brûler à Clichy-sous-Bois après la mort de Ziyed et Bouna et les graves blessures infligées à Muhittine. Ça fait beaucoup de nombres, nous sommes très heureuses de vous tenir par le bout des oreilles, avec tendresse ou avec rudesse. On espère très sincèrement que vous avez mis vos moufles ces dernières semaines et que dans vos mains bien au chaud, vous concoctez les cocktails, les révoltes et les caresses qui crèveront la brume de 1000 feux de solidarité et de rage. TPG, tout pour le goûter, c'est parti pour 1 heure d'émission.
Flash info, bonjour. Samedi, à Moissac, une petite commune du Tarn-et-Garonne, Bardella s'est pris un œuf cru sur la tronche par un retraité agricole de 74 ans. Quand mardi dernier, il s'est fait enfariner par une personne de 17 ans, Bardeloche a dit qu'il était mal élevé. Nous nous demandons tous ce qu'il va pouvoir dire cette fois-ci. On peut désormais affirmer qu'à l'instar de l'Entartrage, l'œufage de fachos est devenu un symbole à Moissac, puisque cette personne a déjà a déjà euffé Zemmour, venu tenter d'œuvrer pour sa campagne en 2022, et a euffé le bus de Le Pen, qui était de passage pour cette même campagne. Nous notons qu'un gros rassemblement contre le fascisme s'est tenu à proximité du lieu de dédicace de son torchon. On peut désormais entendre un peu partout en Rance, mardi de la farine, samedi des œufs. La prochaine fois, ce sera des gaufres. Bardella, te voilà prévenu. Il est désormais clair qu'il y a des endroits où les fachos ne sont pas les bienvenus et où le peuple le fait savoir. Nous vous emmenons maintenant dans une charmante bourgade. Plongée dans l'univers des baleines à bosse. Ces mammifères, d'ordinaire solitaires, se réunissent pourtant quelquefois pour unir leurs forces. Les harengs se sont réfugiés dans les profondeurs. Tout semble calme. Soudain, un appel étrange résonne dans l'eau. De mystérieuses bulles émergent du fond du fjord. Et bientôt, des gueules gigantesques brisent la surface. Ces énormes mammifères de près de 30 tonnes ont formé un groupe de chasse. La tactique est simple, mais efficace. La meneuse plonge, suivie par le reste du groupe. Dans les profondeurs, la même baleine pousse cet appel extraordinaire qui chasse les harengs vers la surface. Par son évent, elle produit ensuite un rideau de bulles qui encercle le banc de poissons et le mène toujours plus haut vers la surface. Pour les poissons, ces bulles forment un mur infranchissable. Pris au piège, désorientés, ce sont désormais des proies faciles. C'est ainsi que chaque baleine avale 500 kg de harengs par jour. Moins de 100 baleines à bosse pratiquent cette chasse coopérative que l'on ne peut observer que dans ces fjords.
Bienvenue, vous êtes de retour sur TPG après cette petite virée maritime, océanique, je ne sais pas. J'ai eu envie de vous présenter deux livres que j'ai lus cet automne. Le premier s'intitule « Fille de vous » de Z. Hernandez. C'est sorti aux éditions, une coédition Sabot et Terrasse. Le deuxième « Chienne de garde » qui m'a été prêté par une amie de TPG qui n'est pas là ce soir, a été écrit par Dalia de la Cerda et c'est sorti à Point il y a un petit peu plus d'années. Fille de vous, c'est là tout frais et je crois que Chienne de garde, ça a quelques années déjà. Je commence par Chienne de garde. Je vous présente ces bouquins parce que moi, ils m'ont vraiment, vraiment touché et mis la patate. Chienne de garde, c'est une succession de portraits de meufs. Tout s'écrit à la première personne et très cache-pistache. C'est tout écrit au présent, des histoires de vie ou de vie un peu sur le temps long, ou des petits épisodes choisis par chacune de ces narratrices, de chacune de ces portraits, quoi. C'est des meufs de toutes les classes sociales avec... on est au Mexique, dans le Mexique contemporain, et une espèce de grande toile de fond des réseaux de trafic de drogue et du plus grand système de l'État et de ses liens, de l'État mexicain et de ses liens avec les réseaux de trafic de drogue. Au fur et à mesure du roman, tous les portraits vont finir par former un petit puzzle et on comprend les liens des meufs les unes avec les autres. Ça, j'adore toujours. Chez moi, ça marche très bien. Ça parle beaucoup de solidarité, d'amitié, de force, de comment les meufs se soutiennent les unes les autres. Ça parle aussi d'armes, de bling bling, de love, d'alliance et même de mariage, de grande violence, de daron, de clan, de patriarcat, de gros diamants, de racisme. De s'imposer dans le monde du haut de soit ses chaussures de sécu, soit ses talons aiguilles, soit ses pieds qui n'ont jamais touché le sol à force de prendre le taxi. C'est des histoires de sorcières, de gardesses du corps, d'influenceuses, de travailleuses du sexe, de multimilliardaires du narcotrafic, et j'en passe. Chacun des portraits donne le sentiment de prendre à partie la lectrice. On est complètement alpagué et pris pour témoin de ces meufs qui survivent chacune à leur manière. C'est assez jouissif. Et ça fait aussi chialer, mais en plus, c'est drôle. C'est même très drôle, très souvent. Quelques petites punchlines issues de ce livre avant de vous en livrer une lecture. Une des meufs dont le portrait est fait à un moment dit « La vie est une chienne et c'est pour ça qu'il faut ruer dans les brancards. » Et une autre dit « Le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes. Le Mexique est un désert fait de poudre d'os. Le Mexique est un cimetière de croix roses. Le Mexique est un pays qui déteste les femmes. » Chapitre Le Sourire. Je suis venu dans le Nord juché sur la bestia. Dans mon village, il n'y avait plus rien pour moi, que dalle. Je cherchais un avenir. On m'a dit qu'à la frontière, il y avait du travail dans les maquilas, et qu'une fois sur place, je pourrais sauter de l'autre côté. American dream, you know. Je suis monté sur la bestia. La bestia, c'est le train qui passe du Mexique aux États-Unis, qui traverse la frontière. Je suis monté sur la bestia parce que c'est gratos. Tu prends de l'élan, tu cours, 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 tu sautes, et hop, t'es déjà en haut. Bien sûr, faut que t'aies de la chance et que tu t'agrippes bien au métal, sinon la bestia te broie entre ses pattes d'acier, et si t'as de la chance, elle te tue. Ou alors elle te laisse unijambiste pour toujours. Mais la vie c'est risqué et moi je m'en suis tiré, putain. J'avais pas un rond. Dans mon village, je vivais à la rue de chez rue, dans la putain de misère, je dormais dans un hamac. J'avais toujours des vieilles tongs en plastique et je mangeais des restes de poisson. Aucun avenir, zéro. Aucun endroit où chercher, ou le chercher sérieux. Me lever, aider mon père à pêcher, aller vendre le poisson sur le port et revenir voir le coucher du soleil sur la plage. Mes journées se résumaient à ça. Une fois, on peut se dire « c'est pas mal, ça ressemble à des vacances ». Mais la vérité, à la longue, c'est pas ouf. Moi, je voulais connaître le monde. M'acheter un truc pour écouter de la musique, danser, profiter. Je ne voulais pas mourir en voyant toujours le même sable, les mêmes vagues, le même coucher de soleil tout le reste de ma vie. J'ai mal calculé. Chienne de vie. Au village, on m'appelait la Negra. Je suis noire, et alors noire et stylée. Du pur maïs foncé, les cheveux crépus emmêlés. À l'usine, on disait afro. Ici, dans la maquila, on m'appelle la Chiqui. Parce qu'en plus d'être noire, je suis Minus. Minus, noire et avec une afro. C'est un micro sur pattes, jacassait les harpies. Pour les meufs d'ici, c'est difficile de comprendre que je suis mexicaine. Aussi mexicaine que je suis noire, qu'est-ce que tu crois? Elles s'imaginent que ma mère a trompé mon père avec un rappeur américain et que c'est pour ça que je suis née métisse? Ou qu'une noire m'a abandonnée sur la plage jusqu'à ce que je me fasse adopter? N'importe quoi. Je suis plus mexicaine que les nopales. Mexicaine foncée. Brown sugar, me disaient les gringos, qui m'achetaient des brochettes de poisson grillé. La frontière ne ressemble pas à ce qu'on croit, ni à ce qu'on en dit. La frontière, c'est un monstre, une bête sauvage assoiffée de sang. Elle n'est jamais rassasiée. Elle se nourrit de travail, de sexe, de drogue et de femmes, mais tout ça, je ne le savais pas. Moi, on m'avait juste dit qu'à Juarez, il y avait du travail, dans les usines et les maquiladoras, que l'ambiance était trop cool, tous les soirs la teuf, et ça m'a fait tourner la tête. Je n'ai prévenu personne, un jour ça m'a pris, je suis allé sur les rails, j'ai pris de l'élan, et j'ai atterri ici avec tous mes rêves. Juarez est comme un immense ranch, je te jure. Un ranch avec des tas de miséreux et des bagnoles que quand tu les vois, tu te dis « le man là, c'est carrément un narco ». Et des chaussures, suspendues au câble électrique. Chaque coin a son style de godasse. Sur la côte, des tongs, vers l'intérieur des terres, des baskets, et ici, des bottes de cow-boy. Trop drôle. On est vraiment un peuple de rigolos. Mais ici, à la frontière, on suspend aussi des croix roses, en mémoire des petites mortes de Juarez. Et il y a plus d'affichettes de gamines disparues que de boîtes de nuit. C'est ce qu'on m'a dit. Pas de chance pour moi qui suis venu pour les discothèques et qui n'ai trouvé qu'un salaud de désert qui dévore les femmes, les coupe en morceaux, les fait disparaître, les avale, ni vu ni connu. Mais moi, je suis pas bête. J'allais pas me faire avoir. Sur la bestia, j'ai rencontré une Colombienne trop stylée. Elle avait un tas de cumbias sur son portable qu'on écoutait ensemble pour passer le temps. Elle me prêtait un écouteur et quand le train ralentissait et que le terrain devenait montagneux, on dansait. Ouais, en haut du wagon, en nous moquant de la mort. En fin de compte, on avait traversé la moitié du Mexique perché sur un train, en pleine route de la mort. On pouvait bien s'en moquer un peu. Je me rappelle que la Colombienne et moi, on dansait trop bien. De la pure cumbia, trop stylée, comme pour déjouer la mort. Pour ne pas tomber entre les mains des narcos, des assaillants, des proxos. C'est ça que ça voulait dire, déjouer la mort. Danser sur le wagon, c'était célébrer la mort, parce qu'au moins, à ce moment-là, on s'en foutait complètement. Tant que la cumbia résonnait, la mort n'était pas là. Il n'y avait que la danse. C'était donc un extrait de Chienne de garde de Dalia de la Cerda. Je vais y arriver. Et donc le deuxième livre dont je voulais vous parler, parce que l'un et l'autre m'ont fait penser à... L'un et l'autre m'ont fait penser. L'un m'a fait penser à l'autre. Voilà. C'était Fille de vous, de Z. Hernandez. C'est une autofiction, c'est-à-dire un roman écrit sur la base de l'histoire de vie de son autrice. C'est un roman qui se passe dans plusieurs époques en simultané. C'est une histoire en Rance, de nos jours, d'une personne qui est descendante d'Espagnols. Ses ascendants espagnols ont successivement fui l'Espagne de franquiste, fui l'Espagne franquiste, je vais y arriver, parce qu'ils étaient persécutés en tant qu'anarchistes. Et ils fuient donc l'Espagne, ils arrivent en Algérie, qui est colonisée par les Français à ce moment-là. Et là, une partie de sa famille participe à la guerre d'Algérie, mauvais côté, enfin côté sale guerre, du côté des colons, quoi. Et le livre, et ben voilà, c'est le récit de la quête de la narratrice, de son histoire familiale, qui est tissée de silence, de violence, d'engagement, d'amour et de haine, et de bon bordel pour elle aujourd'hui de santé mentale, bah pour elle mais aussi pour ses ascendants de santé mentale. C'est un espèce de puzzle de flashback, de retour en arrière dans l'histoire de ses grands-parents et de ses arrières et de ses arrière-arrière-grands-parents. C'est aussi des histoires d'enfants et de la manière dont les enfants poussent déracinés, de fratries et de sœurerie qui se composent et qui se décomposent. Et à travers tout ça, il y a les mots du présent, elle raconte sa vie, comment elle essaye de s'en sortir dans un moment où elle va pas du tout bien. Et il y a beaucoup de mots qui sont aussi adressés à un pote à elle qui est mort, qui s'est suicidé. Tout ça est écrit d'une manière extrêmement poétique. Moi, ça m'est vraiment rentré dans les tripes, comme une espèce de poésie obligatoire pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cœur, quoi, quand le cœur est en train de moisir de trucs qu'il ne comprend pas, ce qui lui arrive et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive sur des générations et des générations, quoi. Et c'est, en tout cas pour moi dans mes lectures, un récit assez nouveau. Je pense que c'est la première fois que je lisais quelqu'un qui raconte depuis des endroits d'intimité et quelqu'un de blanc, d'occidental, qui raconte l'histoire de sa famille qui a participé à la guerre d'Algérie côté colon. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça des écrits et que ça relève un peu le pari, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits parce qu'il n'y a pas beaucoup de récits dans les familles, parce que les gens taisent leur participation à cette guerre. Il n'y a pas beaucoup d'écrits parce qu'il y a de la lâcheté face aux responsabilités coloniales et parce que de toute façon l'État français continue d'imposer sa version qui est faite d'un grand silence de mensonges et d'idéologie raciste, quoi, sur la colonisation et notamment celle de l'Algérie. Et je vous lis aussi un petit trois petits chapitres qui succèdent les uns aux autres. Et le premier, on est avec ses arrière-grands-parents, qui sont donc ces anarchistes qui ont fui l'Espagne et qui sont là à Alger. Son arrière-arrière-grand-mère, Carmen. Carmen se cramponne aux âges qui passent. Alger gargouille de misère et son ventre à elle ne connaît pas de repos. Il est vide d'enfant depuis que Alvaro ne la touche plus. Il se remplit d'acide. Au fil des jours, ses mots se scellent pour ne pas que le monde entende les malédictions qu'elle lui dépose. Le soleil a buriné sa peau et les années lui ont doublé au visage. Le fond de sa gorge s'égrise. Elle sait qu'elle n'a plus besoin de crier. Sur le palier, devant l'ouverture qui sert de porte, assise à même le sol, les genoux sur le menton, Carmen mâche silencieusement le pain rassis qui lui sert de festin. Elle ferme les yeux pour voir François. Tous les jours, depuis des semaines, elle ferme les yeux pour voir François. Son immobile fureur tient pour statue le devant de la masure. Rien ne bouge. Elle a choisi l'omission pour combler la honte. Les hommes passent et mollardent. Hiro de mierda. Elle n'essuie jamais. Elle laisse l'air lui sécher la salive au front ou à l'œil. Hiro de puta. Paupières closes, peau tirée par la glaire. C'est un ruisseau qu'elle attend pour s'irriguer. Qu'il crache. Qu'il crache tous ces hommes complices, traîtres, lâches. Qu'il crache avec facilité sur la mer, puisqu'ils n'ont rien compris. Chaque jour, ils arrosent et elle les abomine. Chapitre 24. Après l'angoisse, je ne prends plus le métro, je ne supporte plus les pièces fermées. Au bar, au restaurant, au cinéma, je choisis la place près de la sortie. Dans chaque lieu, je vérifie les portes de secours. La nuit, j'insomniaque. Le jour, j'ai froid. Je ne prends plus le tram, plus le train. Je ne veux plus rester seul. Je mords avant qu'on me parle. En manif, je casse, brûle, démonte. Par terre, dans le salon, allongé sur le dos, je larmoie dans de longues plaintes animales. Ça broie, ça pulvérise. Tous les jours, dehors, les nuits continuent à mourir dans l'indifférence. J'attrape au goulot pour dormir, et les cauchemars s'installent, entament mes lèvres et me cassent. Je m'asphyxie. Chapitre 25. Cheveux courts, gueule marquée. Ton souvenir s'égrène et je le saccage. Dans mes ardeurs, des baisers éclatés que j'offre à des passions anonymes, des images effleurées que je dessine à même leur peau, ton cadavre accroché au mien. Je n'ai pas de tombe pour ta mémoire. Au procès de notre oubli, je te vois au barreau, grêlé de colère. Mais c'est moi qui te hais.
Encore envie d'écrire à toutes ces voix qui m'ont un jour manqué de respect. Ouais, encore prévu de vous parler de ça. J'ai dans la tête, j'suis pas désolé, j'connais rien de plus libérateur que de chier sur les harceleurs. Enfin, y'a pas que, c'est toute une team patriarcat solide. Grosse épine à vous qui êtes déjà dans la salle. J'vous souhaite pas de vous sentir visé. Parlez-en à quelqu'un si c'est le cas. On peut toujours tenter de changer, j'sais même plus de quoi faut parler. Vengeance ou résilience, j'ai quelques idées à partager. Est-ce que j'perds espoir ou j'garde confiance? J'fais confiance à l'autodéfense. Pour vous empêcher de faire du mal, droguer nos pensées, ruiner nos balles, ruiner nos soirées. Je fais confiance aux féministes pour vous écarter de nos vies, de nos rues, de nos copines et de nos culs. Je fais confiance à mes potes pour vous éviter dans leur couple, dans leur taf, à Moscou, dans l'espace. J'aimerais aussi avoir confiance en vous, espérer que vous allez changer. Je fais ce que je peux mais j'arrive pas du tout. Les souvenirs que j'ai me disent d'arrêter. Et pour les mecs 6 autour qui font comme si rien du tout, tu les laisses faire alors je te mentionne. C'est simple, si je bouge pas tu cautionnes. C'est simple, c'est simple. Si tu bouges pas tu cautionnes. Secoue tes potes, secoue tes voisins, secoue tes frères, secoue tes cousins, secoue ton fils, secoue ton prochain, secoue ton préfet, secoue ton adjoint, débrouille-toi. Moi j'en sais rien, débrouille-toi. Dis-leur, t'es plus un gamin. Secoue ton curé et ton paroissien, secoue ton collègue et ton N plus 1, secoue ton boss, secoue ton musicien, secoue ta fac, secoue ton doyen, débrouille-toi. Moi j'en sais rien, débrouille-toi. Dis-leur, même si meilleurs copains ils sont partout, on vous voit. Mais nos corps à nous, on touche pas. Mec violent, violeur, mec relou, on veut pas vos sales potes contre nous. Je laisserai personne dire le contraire. Si tu me crois pas, tu manques pas d'air. Je veux pas savoir ce que t'en penses. Pas de débat, ne commence pas. Pas besoin de rimes compliquées pour vous dire qu'il faut dégager. Laissez de l'air, laissez le temps. Moins de bruit pour les tympans. Si c'est pas clair, je vais clarifier.
si c'est pas clair.
Si c'est pas clair, ouais.
Si c'est pas clair, je vais clarifier. Laissez-nous vivre nos vies et nos journées. Lâchez nos réseaux, rendez l'espace, garde votre violence. Si c'est pas clair, je vais clarifier. Laissez-nous vivre nos vies et nos journées. Lâchez nos réseaux, rendez l'espace, gardez votre violence, gardez votre grâce.
On vient d'écouter On vous voit de Rima. J'ai choisi cette chanson parce que pour finir sur ces deux bouquins, je pense que c'est vraiment des bouquins où t'as des meufs qui s'échinent à écrire quelque chose sur les histoires de vie et que notamment écrire sur les histoires de vie, transmettre des récits et trouver les mots pour dire, c'est vraiment des actes féministes face au patriarcat guerre, au patriarcat état qui nous niquent la gueule avec ces violences taboues, ces grandes histoires qui sont niées et aussi par l'incapacité des gens à dire leurs émotions.
La semaine dernière, j'ai regardé le film La Marche qui est visible en ce moment sur France TV. Et ça m'a donné envie de parler un peu de La Marche 40 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Je vais d'abord vous lire un extrait d'un article du Monde. Donc, l'article s'appelle La Marche de 83, histoire d'une égalité manquée. Et 1983, les marcheurs de l'égalité retournent vers le futur pour l'antiracisme. C'est l'idée de jeunes du quartier populaire des Minguettes à Vénissieux, Rhône, qui, révoltés par la violence de la police, décident de marcher dans toute la France pour dénoncer le racisme et les inégalités. Lorsque 100 000 personnes arrivent à Paris, le 3 décembre, quelques marcheurs sont reçus par François Mitterrand à l'Élysée, qui promet l'allongement de la durée de la carte de séjour. 10 ans au lieu d'un, une loi contre les crimes racistes et un projet sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. 40 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé ? SOS Racisme, touche pas à mon pote, c'est l'une des plus grosses escroqueries politiques et intellectuelles que nous ayons vécues, affirme Hanifa Taglumit, qui témoigne dans le documentaire 1983, Les marcheurs de l'égalité. Ce documentaire, il est aussi retrouvable sur France TV. Et je vais continuer avec un extrait d'un article de Mediapart qui s'appelle 4 décennies plus tard, l'interminable marche vers l'égalité. Aujourd'hui, Farid Lawa a 65 ans, et dirige une ludothèque à Lyon. Il fut le photographe de la marche, en plus d'être coordinateur et porte-parole. Il parle des agressions quasi quotidiennes en direction des populations des quartiers populaires. Ouvrez le guillemet. On voit les concordances. Il y a eu 1973, une année de vagues meurtrières visant les personnes maghrébines. 1983 et 2023, la mort de Naël. Fermez les guillemets. Ces militants militantes ont toujours gardé un œil sur les quartiers et les problématiques qui les traversent. À chaque commémoration, et celle de 2023 ne fait pas exception, la presse leur tend le micro. Au fil des décennies, les constatations deviennent de plus en plus amères. Ouvrez les guillemets. Dès 1993, je lance de manière prémonitoire un message d'alerte sur la disparition de l'espace républicain, de la laïcité, enfin du vivre ensemble à travers nos espaces communs, raconte Faïd Lawa, inquiet d'une relégation, comme les ghettos américains, d'une population désignée comme « français musulmans » à l'occasion de la guerre du Golfe. Devenu mon médiateur de rue, Jamel Atala n'a jamais quitté les quartiers populaires. Il connaît bien Nanterre, la ville natale de Naël, tuée par un tir de policier en juin. Il a continué d'observer la vie des habitants habitantes là-bas. La discrimination est, selon lui, encore plus prégnante aujourd'hui. Ouvrez les guillemets. On pouvait dire qu'à l'époque, que nous, ces jeunes post-coloniales, on n'avait pas d'emploi car on n'avait pas fait de longues études. Même si c'était un faux argument. Mais aujourd'hui, 40 ans plus tard, on le voit. Des gens bardés de diplômes ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Cette police en roue libre, elle fait même peur à son propre gouvernement. La République française a un problème avec ses Arabes depuis très longtemps. Même si on est là depuis 10, 20 générations, on sera toujours vécu comme des gens venant d'ailleurs. Et c'est ça qui est terrible. Dans cette République, pour être français et assimilé, je dois me javeliser complètement sur le plan culturel et identitaire. Marie-Laure Mahé est devenue éducatrice et a travaillé dans le social toute sa carrière. Engagée, elle a continué de s'intéresser aux questions de racisme et de violence policière si persistantes. Ouvrez les guillemets. Depuis longtemps, il y a des jeunes qui meurent sous les balles de policiers, pas forcément tués à bout portant, avec une volonté d'exécution, mais en tout cas, qui font peu de cas de la vie humaine quand il s'agit de les interpeller. Fermez les guillemets. Sans nier les problèmes des quartiers populaires, chômage, trafic de drogue, famille monoparentale en difficulté, prostitution de mineurs, citelle pêle-mêle, la question de la police et de son comportement reste problématique, selon Jamel Atala. Elle est complètement infestée d'une idéologie d'extrême droite à travers ses syndicats, qui sont les dominants. Et cette police, en roue libre, elle fait même peur à son gouvernement. Malika Bonnet-Dienne considère aujourd'hui que dans ce marasme social et cet enfermement des quartiers populaires, seule l'école compte. « Je suis bien placée pour le savoir », dit-elle. Celle qui n'a pas eu l'opportunité de suivre des études. C'est primordial à ses yeux pour se défendre et avancer dans la vie. Le racisme cathodique qui se déverse sur certaines chaînes de télévision désespère Arbi Zerghoui et Jamel Atala. Tout comme la présence de 88 députés Rassemblement National élus à l'Assemblée nationale. Fruit des politiques de la gauche qui a trahi ses idéaux et ses électeurs. Ou l'abstention massive des quartiers lors de divers rendez-vous électoraux. D'autres regrettent la dévitalisation du tissu associatif et l'absence de lieux de sociabilité municipaux pour les jeunes. Dans ce tableau sombre, ses aînés s'attendrissent sans paternaliste sur les nouvelles générations de militants militantes. Marie-Laure Mahé considère que les marches unitaires du 23 septembre contre les violences policières, le racisme systémique et pour l'égalité publique, à l'appel d'organisations syndicales, d'associations, de collectifs, de comités de quartiers populaires, de victimes de violences policières et de partis politiques s'inscrivent dans le prolongement de la leur. Si ça continue, vu la multiplicité des acteurs et leur revendication très claire de refonte complète de la culture et du système policier, cela peut vraiment faire peur au gouvernement, dit-elle. Jamel Atala a été impressionné récemment par Assetou Cissé, la sœur de Mamadou, tuée fin 2022, à Charleville-Mézières, par un voisin. Elle s'investit de plus en plus, c'est extraordinaire. Voilà, et donc cet article, vous pouvez le retrouver sur Mediapart. Je redis, il s'appelle « 4 décennies plus tard, l'interminable marche vers l'égalité ».
Sofiane, j'ai 20 ans. Et c'est parce qu'ils étaient là, un jour au mauvais endroit, qu'ailleurs ici ou là-bas, pour nos frères plus jamais ça.
On vient d'entendre une chanson de Calogero qui parle du meurtre de Kevin Mounoubousi et de Sofiane Tadbir qui ont été assassinés à Échirolles en 2012 suite à un règlement de compte. Et ce morceau, il va faire écho à la chronique que vous allez entendre. Et elle répond notamment un peu à la question de Calogero quand il dit « Qui a mis ça? La guerre dans nos quartiers, l'abandon, l'ennui, la télé ?»
Alors, d'abord une petite pensée à la camarade qui devait lire ce texte avec moi ce soir. Bon repos à toi. Il va y en avoir besoin par les temps qui courent. C'est un texte qui a été écrit, une tribune qui a été écrite et qui a été publiée gratuitement sur Mars Actu, qui est un média marseillais. Et là, même si on n'est pas abonné, ben on peut aller télécharger cette tribune si on veut. Elle fait suite à la mort de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine Kessassi. J'ai voulu lire cette tribune parce que il dénonce le fond du truc, quoi. Les problèmes que nos élus, les gens du gouvernement, là, font tous de la pub sur le narcotrafic sans vouloir changer le fond. Donc cette personne est avocate, s'appelle Mourad Marjoubi. C'est aussi un enfant des quartiers nord. Il a grandi dans ces cités que l'on montre volontiers du doigt quand il s'agit de pointer la responsabilité à la dérive sanglante du narcotrafic. Il a publié cette tribune sur les réseaux sociaux que Mars Actu choisit de reprendre et de diffuser gratuitement. Du coup, ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. Et à des moments, il utilise la première personne. Enfin, c'est bien la personne qui a écrit le texte qui utilise le « je ». Vous voulez lutter contre le narcotrafic ? Alors luttez contre le démantèlement du tissu associatif et l'éducation populaire que vous avez méthodiquement et méticuleusement organisé dès les années 2000 à l'aune des revues générales de politique publique, de suppression de postes et de mépris pour tout ce qui ressemblait à une présence humaine non rentable. Les éducateurs, les éducatrices, les centres sociaux, les maisons de quartier, tout ce que vous avez remplacé par du vide et des appels à projets absurdes. Alors, luttez contre la mort lente des services publics que vous avez relookés en gestion de flux, où les policiers ont troqué les maillots de foot contre des casques lourds, où la poste a fermé pour ouvrir des agences bancaires privées, où la sécurité sociale est devenue une ligne téléphonique saturée, où le terrain a disparu et où vous avez remplacé les liens par du maintien, la présence par le contrôle, l'écoute par la répression. Alors luttez contre l'inculture crasse que vous avez entretenue en détruisant tout effort, toute exigence, toute ambition de transmission, en laissant la jeunesse s'enfermer dans des caricatures qu'elle n'a même pas les moyens de produire, pendant que ceux qui peuvent vraiment jouer les voyous sont ceux qui n'en subiront jamais les conséquences. Parce que les vrais jeunes de quartier n'ont pas vraiment les moyens d'acheter légalement un billet pour aller voir Jules au Vélodrome quand on y réfléchit bien. Alors, luttez contre la corruption que vous avez niée pendant 20 ans. Celle qu'on vous racontait gamin dans les commerces, les caves, les commissariats, les trucs que personne ne croyait parce que ça ne passait pas au cinéma. Jusqu'à ce que ça éclate. Trop tard. Toujours trop tard. Et que vous découvriez en direct ce que les quartiers savaient depuis toujours. Alors, luttez contre le marché de la misère, que vous avez laissé prospérer en traitant des pans entiers du territoire comme des zones de relégation. Bonne à sous-traiter à la débrouille, au noir, au système D, pendant que l'économie légale se retirait, que les loyers montaient, que les CDI disparaissaient et que la seule entreprise qui embauchait sans CV, sans diplôme et sans piston, bah, c'était le réseau. Alors, lutter contre les bailleurs sociaux qui ferment les yeux sur l'état des halls, les trafics visibles, les pressions sur les familles, parce que l'essentiel, c'est que le loyer tombe, peu importe que les murs s'effondrent et que les gamins passent leur enfance à slalomer entre guetteurs et clients, tant que les charges sont payées et les façades repeintes pour les photos, tout va bien. Alors luttez contre l'abandon scolaire que vous avez généralisé en transformant les établissements des quartiers populaires en zones d'attente, avec des profs jetés dans la fosse sans formation, sans renfort, sans suivi. Des gamins à qui l'on a dit « vous n'êtes pas fait pour ça » dès la sixième, et qu'on a laissé glisser jusqu'à la sortie sans qu'aucune main ne les rattrape. Alors luttez contre le blanchiment massif que vous refusez de regarder en face pendant que l'argent du trafic s'infiltre dans l'immobilier, les commerces de luxe, les véhicules, les applications, les mandats cash, les comptes nickel, tout un système parallèle que vous refusez de démonter parce qu'il implique des gens bien plus hauts que ceux que vous coffrez pour 10 barrettes et un billet de vin. Alors luttez contre votre propre lâcheté politique qui consiste à faire des conférences de presse à chaque saisie mais à ne jamais remettre en cause les fondations pourries du modèle qui accepte la ghettoïsation, les écoles sous-dotées, les services publics absents, la relégation urbaine et qui fabrique du trafic comme une usine fabrique des pièces à la chaîne. Qui suis-je pour dire ça ? Juste un gamin du 14e arrondissement de Marseille qui a grandi avec l'héroïne qui ravageait les halls d'immeubles et les grands ensembles dans les années 80, qui a vu les ravages du crack dans les années 90 et dont les seuls de sa génération à avoir été des trafiquants n'ont pas eu besoin qu'on leur fasse la guerre, car la rue ne fait pas de vieux os. Un gamin dont la mère aura finalement fait 30 années dans un centre social de quartier à aider les familles à voir les politiques changer, les subventions baisser, les bâtiments se vider, les gamins revenir ou disparaître à jamais. Un gamin qui s'est investi bénévole pendant des années dans une asso, en plein cœur d'un des quartiers les plus criminogènes de Marseille et dont l'aventure s'est arrêtée justement à cause des réseaux. On avait d'ailleurs alerté à l'époque. Mais l'arrivée de Sarkozy au pouvoir avait fini le boulot en coupant définitivement notre unique poste salarié conventionné. Pendant le confinement, j'avoue que les larmes me sont montées en retrouvant au hasard d'un carton les cartes d'adhérents qu'on faisait remplir aux gamins avec leurs petites photos collées dessus. Et il y en avait pas mal qui avaient fini carbonisés dans des coffres de voiture quelques années plus tard. Alors non. Dites pas les narcotrafics. Dites pas la guerre au narcotrafic, parce que ce n'est pas un monstre venu d'ailleurs, c'est nous, c'est vous, c'est vos amis qui ne voient pas le mal à se taper une ligne de coke en soirée, c'est tous les renoncements, toutes les petites lâchetés, tous les idéaux qu'on a laissés mourir. C'est l'école qu'on n'a pas soutenue, les éducatrices qu'on a laissées tomber, les quartiers qu'on a désertés, les services publics qu'on a privatisés, les rêves qu'on a remplacés par des slogans. Et pendant que vous cherchez des coupables dans les cages d'escalier, d'autres vous vendent leur poison à eux, plus propre, plus élégant, mais tout aussi toxique. La peur, le repli, l'oubli. Eux aussi, ils dealent, mais dans vos têtes. Signé Mourad Marjoubi.
Demi-portion. Besoin d'aide.
Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi. Surtout moi.
Je vous en prie, écoutez-moi encore aujourd'hui. Je n'ai plus rien du tout, j'ai plus de famille, ni d'abri. J'ai tout perdu dans mon parcours. Un père cool, une mère calme, une petite sœur que j'aimais tant. Une sale histoire qui me fait mal et j'ai même plus de pays en même temps. Tu es moi, je crève quand je trouve plus de force à continuer. Je n'arrive plus à vivre dans le noir même si la lumière est allumée. Être dehors, vivre enrhumé, le froid n'efface plus ce que je vois. Pourquoi me plaindre, on m'entend pas, personne vivra juste une fois. Une femme, un amour, à cette période tu me dis que j'abuse. Dis-moi pourquoi ça tombe sur moi, est-ce que sur mon front il y a écrit je m'accuse. Non, vas-y, j'arrête là, je vais trop loin, je m'en excuse. J'ai besoin d'aide, écoutez-moi, je compterai sur vous. Si on m'expulse, on ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, qui va presser sur la détente. Personne, car on ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, oh, qui va presser sur la détente. Écoute. Salam alaikum, j'ai 9 ans, je m'appelle Mounir, palestinien. J'ai plus de famille, ni d'abri, j'ai toujours peur de celui qui vient. J'ai pas d'école, pas d'amis, non, j'ai passé l'âge. Je connais aucun dessin animé, chez moi j'entends que les bruits de calache. Je contrôle les larmes et les barrages, on fouille mon sac dans les checkpoints. Pourtant j'ai jamais de goûter, assis, j'ai juste les gouttes qui tombent. Je veux la paix, écoutez-moi tout simplement. D'accord, tout le monde se conduit n'importe comment. Sans logement, ni nourriture, ouais la télé te cache la totale. Dans ma classe, toutes nos tables ont été prises pour lit d'hôpital. N'ayez pas de frissons quand je vous parle, retenez-moi si vous le pouvez. Disons que, quand je me suis approché des barbelés. On ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, qui va presser sur la détente. On a tous besoin d'aide, pour la Palestine, jusqu'en Birmanie. Et tous les peuples qui souffrent en ce moment même. Big up, deux demi-portions. Peace.
Radio Saféréol, 94.2, vous écoutez Tout pour le goûter. C'était demi-paix du très, très grand demi-portion. Love. C'est l'heure de la anticapitaliste agenda.
C'est l'heure de l'agenda. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH et le SIDA. Alors, on vous fait écouter l'interview.
Je tiens quand même à présenter mes excuses pour la qualité du son. On a enregistré ça hier soir, très tard, avec un téléphone pourri.
Alors, salut. Du coup, aujourd'hui, c'est l'émission Tout pour le goûter. Ça tombe un 1er décembre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le 1er décembre, qu'est-ce qui se passe chaque année?
Le 1er décembre, pour moi, c'est la journée de lutte internationale, la journée mondiale de lutte contre le VIH, l'épidémie à VIH-SIDA. Je ne sais pas depuis combien de temps...
Elle existe la journée?
Ouais, très long. En tout cas, moi, je l'ai toujours, ça a toujours été un jour où j'ai été mobilisée sur ces questions-là. C'est un jour symboliquement qui est fort aussi pour parler des luttes et des mobilisations en lien, parce que le VIH c'est aussi beaucoup une histoire de discrimination, stigmatisation et lutte sociale. C'est pas juste une histoire de maladie biomédicale, et donc c'est aussi une journée pour penser à toutes ces solidarités là qui sont possibles et qui existent pour les personnes qui en auraient besoin.
Alors, toi, tu habites à Marseille, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui se passe à Marseille demain, puisqu'on enregistre la veille?
À Marseille, demain, je pense qu'il y a plein de lieux dans Marseille qui sont mobilisés, qui vont proposer du dépistage ou des informations, de la prévention ou de la réduction des risques. Il y a une journée interassociative au centre LGBTQIA+ de Marseille, avec plein d'assos qui viennent parler santé, sexualité, usage de drogue, des questions qui sont en lien avec l'épidémie à VIH, puisque on sait qu'encore aujourd'hui, les communautés les plus touchées, c'est les hommes qui font du sexe avec les hommes, les fameux HCH, les personnes trans, mais aussi les femmes migrantes ou nées à l'étranger avec un parcours de migration. Et que donc c'est important d'avoir une attention particulière à ces personnes et aussi aux personnes qui utilisent des drogues.
Et en off, on se disait que peut-être ce serait cool de dire un mot sur le Fonds mondial. D'ailleurs, je ne sais pas si cool, c'est le bon terme.
En effet, cool, semi-cool, puisque le Fonds mondial de lutte contre le VIH et la tuberculose, c'est un fonds, comme son nom l'indique, qui est alimenté par de l'argent donné par des pays différents, qui font partie du G7, les pays les plus riches. Le principal donateur du Fonds mondial, c'était les États-Unis. Trump a choisi de couper toutes ses aides, mais la France aussi est, je crois, le deuxième donateur. Et pour le moment, le président Macron ne s'est pas du tout engagé sur le renouvellement de la participation de la France à ce fonds. Il ne s'est même pas rendu à la réunion annuelle, je crois. Ce qui, symboliquement et concrètement, est un peu flippant, puisque ça veut dire que c'est beaucoup d'argent qui ne va pas aller pour financer des traitements ou des logements ou de la mobilité pour des personnes qui en auraient besoin, qui vivraient avec le VIH, puisque c'est encore une maladie dont on peut mourir aujourd'hui, même si c'est aussi une maladie avec laquelle on peut vivre grâce au traitement. Il y a encore beaucoup de personnes qui en meurent. Et du coup, c'est très important de continuer à avoir une attention à tout ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre.
Et dernière question, on a un camarade pendant cette émission qui va nous parler de la marche pour l'égalité de 1983. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur cette année-là ?
Bah oui, on se disait tout à l'heure que c'était l'année où le virus du VIH a été découvert. Par une équipe française, la docteure Françoise Barrécine aussi et le docteur Luc Montagnier à Paris. C'est un peu comme un film à suspense, la découverte de ce virus, presque un thriller. Il y a un bouquin qui la raconte assez bien, qui s'appelle Les enfants endormis. C'est un petit bouquin d'Anthony Passeron. Et qui raconte à la fois l'arrivée du VIH dans l'arrière-pays niçois, dans des tout petits villages où les jeunes consomment de l'héroïne, qui va voir... Et donc lui, c'est un jeune garçon qui a 6-7 ans à l'époque et qui a un oncle qui est utilisateur d'héroïne par voie intraveineuse. Et du coup, un chapitre, on découvre un peu l'arrivée du VIH en France, vu à travers le prisme d'un petit village de l'arrière-pays niçois. Et le chapitre d'après, c'est la lutte un peu acharnée entre les États-Unis et la France, là, qui va découvrir ce virus, qui va comprendre comment il se transmet, comment on peut agir sur ces mécanismes de transmission et comment le neutraliser. Et c'est un bon bouquin qui explique bien cette histoire-là pour les personnes qui s'y intéresseraient. Il est facile à lire, il n'est pas long. C'est une histoire tragique, mais qui est importante à être transmise et connue, et qui nous enseigne beaucoup de choses sur l'importance de la solidarité, même dans la lutte contre les épidémies.
Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure ?
Je souhaite un bon 1er décembre à toutes les personnes qui vivent avec le VIH, à toutes les personnes qui luttent, et... il est important qu'on continue à prévenir et informer toutes nos communautés des modes de transmission et des moyens de lutter contre cette maladie.
Merci.
C'est à moi ?
Non.
Ah.
C'est à moi. Alors, donc, on continue la suite de l'agenda. Jeudi 4 à la MJC Nini Chaise de Oust-sur-Scie à 18h. Il y a le témoignage d'une habitante de la vallée de retour d'une mission de solidarité en Cisjordanie occupée. Sur place, il y aura une cantine et cagnotte à prix libre. Vendredi 5, attention, il y a deux soirées. Alors, la première, c'est à Cray. C'est la soirée de la Folade à l'Hydre, le café associatif de Cray. C'est le bar TPG pour tchatcher, se rencontrer, boire des tisanes ou des bières sans alcool, ou ce que vous voulez proposer. Ouverture dès 19h. Et l'autre soirée, c'est une soirée techno en soutien à la caisse anti-répression dromoise au Vex à Valence de 17h à 23h59. Attention, c'est très précis. La caisse anti-répression a été créée depuis la mobilisation du 10 septembre dans la Drôme. Elle aide les personnes ayant subi de la répression policière et ou ayant affaire avec la justice. Elle est dédiée à tous celles qui en ont besoin. Et cette caisse anti-rep est hébergée par la CNT 2684. Et je passe la feuille à mon voisin.
Alors, du 6 décembre au... Ah, ça s'est mis en veille.
La feuille en veille.
Ah, cette feuille quand même.
Alors, attendez.
Ah, la feuille a un mot de passe maintenant.
J'ai retrouvé. Du 6 au 7 décembre, marché solidaire, vente de produits palestiniens au café Asso de l'Hydre. Le samedi, ça sera de 9h à 18h et du dimanche de 10h à 17h. Dimanche 7 décembre, l'équipe des Pommes des Terres vous invite à une après-midi soirée roller disco, attention, pour soutenir notre équipe de roller derby local. Donc de 16h à 17h, créneau enfant plus proche, de 17h à 20h, ouvert à tous. Ça se passera au gymnase Armorin, 6 chemins du Petit Saint-Jean à Cré. Au programme, un dance floor en roller, des DJ sets, une buvette, des snacks. Prix libre, pas d'inscription, ramène du cash et surtout, ramène tes patins ou tes rollers. Lundi 8 décembre, de 19h à 21h à l'Hydre. Une cantine pour cantiner, repas chaud à apporter et prix libre. J'ai pas dit ça.
À apporter, t'as dit, mais c'est pas grave.
Ah, à emporter, pardon. Vous allez rien comprendre. Je recommence. Lundi 8 décembre, de 19h à 21h, une cantine pour cantiner, repas chaud à emporter et à prix libre. Et une table d'écriture pour écrire aux prisonnières. C'est dans l'idée de pouvoir récolter des sous pour pouvoir soutenir les personnes qui sont en tôle. Je trouve plus la suite. Le jeudi 25, ciné décolonial.
C'est pas grave.
Ciné décolonial à Oust. En fin d'après-midi, projection et gaufre partie à la Mycène Nichesse de Oust dès 16h pour une projection d'un dessin animé. Et 18h, soirée plaid et série.
Ouais. Passe-moi la feuille.
Oui, je passe la feuille.
Lourde. La feuille. Flashback, vous avez suivi, on était le jeudi 25 et on retourne en arrière au mercredi 24. T'es tout seul le 24 décembre, peut-être non, ou t'as un truc pourri à faire le 24 décembre. Non, fais pas ça. Viens à les Labos de Paulette à Oust. Ça commence à 14h, ça finit à 23h, c'est le 24 décembre. Pour toutes celles qui n'ont pas envie d'être seules, de galérer, de se faire chier dans leur famille ou je ne sais quoi. Maquillage, coiffure, goûter, boum, dîner,
tout,
paix, amour,
souffle,
je suis parti en sucette, voilà. tout le long, comme d'hab... on respire. Tout le long, comme d'hab, tout le long de chaque mardi soir, la cartouche, la bibliothèque autogérée de Cray vous accueille. Au mois de décembre, toutes les permanences sont ouvertes à tous. Et attention, scoop, nous sommes ouverts le 23 et le 30 décembre, cette période qui, pour plein de gens, pue, vient à la cartouche. C'est de 18h à 20h sur la place de l'église à Cray. C'est très simple à trouver, c'est la plus belle vitrine de toute la place. Du 2 au 21 décembre, on en a déjà parlé, on en parle encore, l'exposition « Racisme invisible, l'ordinaire dans la vallée » et cette fois à Luc en Diwa. À l'espace de la Cancaille, je ne sais pas exactement comment se décrit cet espace, mais c'était un espace super tenu par des amis. Et pardon, elle est dans deux lieux en simultané, l'espace de vie sociale de Erdiwa, donc là, l'espace de vie sociale de la radio de Guy et des environs, et à la Cancaille, à Luc en Diwa. Vous n'avez pas encore vu cette exposition qui tourne depuis un an et demi ? Il faut y aller.
Et du coup, si vous venez au vernissage demain, à 18h à la Cancaille, et ben ce sera l'occasion de aussi découvrir en simultané ce qu'il y a à l'espace de vie sociale Erdiwa. On fera une petite déambulation à un moment donné. Voilà.
Ok, merci.
Plein de gros bisous à nos absentes.
Oui,
A, S, C, F. Non, ce n'est pas un acronyme chelou. Ce sont juste les initiales de nos amis qui ne sont pas là ce soir. Et à bientôt, poil au dos. Je crois qu'à la prochaine émission, exceptionnellement, depuis un an et demi, on fera soit une boum, soit une rediff, car nous serons en journée de réflexion sur notre petit collectif de tout pour le goûter. Et c'est le 5 janvier.
5 décembre, j'allais dire.
À l'année prochaine. Poil au cul.
Salut. Allez, ciao.